Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires sur l'actualité internationale. Ce n'est pas une surprise. Bonjour aussi à Habib, mon complice qui est là aujourd'hui. Et puis je salue Yamine, et que je remercie à l'avance pour son intervention sur son pupitre.
Bonjour.
Et je salue un nouveau visage donc dans Radio Galère qu'on va apprendre à connaître, mais que je salue, voilà. Une nouvelle venue avec les équipes de Radio Galère, à part quelques piliers très, très anciens, très solides, comme Sidi, que vous connaissez, enfin, dont vous connaissez le nom. Ensuite, il y a un renouvellement lié à l'âge, lié à différents types de contrats. Enfin, c'est très, très compliqué. Mais en fait, on a un flux régulier de jeunes qui arrivent à la radio. Donc, ça équilibre la moyenne d'âge par rapport à nous. C'est très, très bien. Voilà. Alors, on va un peu parler du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Ouais. Parce que, je me suis arrêté sur une attaque très particulière de l'armée israélienne sur Gaza. Alors, vous savez que les attaques de l'armée israélienne sur Gaza, c'est un permanent. Ça n'arrête pas, en particulier depuis que le Hamas a pris le pouvoir électoralement depuis 2007 dans la bande de Gaza. Et puis ça s'est intensifié quand même ces derniers temps, au point que le dernier chiffre que j'ai noté, c'est qu'il y a eu 256 morts côté palestinien depuis le début du mois de mai. Donc sur 30 jours, 256 morts. On est presque à 10 morts par jour. Il y a quelques Israéliens, mais une quinzaine. On a toujours le même déséquilibre, mais on a effectivement ces deux chiffres quand on les confronte. Il y a effectivement un face-à-face qui est maintenant de plus en plus militaire, avec d'un côté la volonté israélienne qui est connue d'éliminer la population de Gaza, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, et de l'autre côté des gens qui ont décidé de ne pas mourir sans se battre. Et la dernière intervention de l'armée israélienne est assez particulière. Je m'arrête dessus parce que c'est un peu inattendu, assez nouveau. Il y a à Gaza, comme il y a 2 millions d'habitants, de quoi quand même assurer la survie, la production de quelques légumes, quelques aliments et tout, sur le territoire de l'enclave, comme on dit. Et il y avait un stock d'engrais, de pesticides, de fongicides nécessaires à la petite agriculture gazaoui. Qu'est-ce qu'a fait l'armée israélienne ? Eh bien, elle a bombardé ce stock de produits chimiques, donc de produits destinés à l'agriculture, engrais, pesticides, fongicides et tout. Il faut savoir qu'il s'agit là de produits très dangereux, pas quand vous les mettez sur vos champs encore qu'il faille quelquefois se protéger, mais que dès l'instant où on tire dessus, qu'on y met le feu, ça devient des explosifs, ça fait des fumées extrêmement toxiques, et c'est ce qui s'est passé. Bon, comme ça, toutes les apparences d'avoir été un geste délibéré, il s'agit d'un crime de guerre, c'est-à-dire de la transformation d'un stock de produits agricoles ou de produits pour l'agriculture en armes chimiques. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, espèce d'hypocrisie, à dire « mais c'est pas une arme chimique ». Non, mais vous saviez très bien, vous, messieurs, les soldats israéliens qui avaient tiré sur ce dépôt de produits pour l'agriculture, qu'il y avait dedans, c'est connu dans le monde entier, des produits sur lesquels il ne faut pas mettre le feu, pas tirer, sinon ils deviennent des explosifs ou ils produisent des fumées extrêmement...
Nitrate.
Voilà, exactement. Alors on pense effectivement, Habib me le fait remarquer à juste titre, qu'il n'y a pas si longtemps, sur le port de Beyrouth, un engrais très connu, très largement utilisé dans le monde entier, qui s'appelle le nitrate d'ammonium, et qui est parfaitement inoffensif si vous le distribuez depuis votre tracteur dans votre champ, devient extrêmement dangereux et explosif dès l'instant où vous y mettez le feu. Il suffit de mettre du gasoil dessus et d'allumer, et là vous avez une bombe. Bon. Donc ça c'est connu de tout le monde, et c'est évidemment connu de l'armée israélienne. Donc le fait de bombarder un entrepôt de produits pour l'agriculture, c'était un geste criminel, c'est-à-dire un geste contraire à la convention sur l'interdiction des armes chimiques. Alors je ne sais pas, d'ailleurs je n'ai pas vérifié si Israël avait signé cette convention. Enfin, le résultat
non,
serait
pas signé.
Je crois pas. Hein. Non, le résultat serait pas très différent, puisque vous savez qu'un des principaux signataires et initiateurs de cette convention, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, a fait tout pour qu'il n'y ait pas de système d'inspection, c'est-à-dire qu'on peut très bien signer en disant qu'on n'utilisera pas des armes chimiques, et en fait continuer à le faire sans aucun contrôle, puisque le contrôle n'a pas été instauré entre les signataires. Donc cette convention, j'y reviens puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, pour l'interdiction des armes chimiques et biologiques, est une convention qui ne sert à rien. Puisqu'au fond, c'est un très joli texte. Alors, elle a servi ici, à contrario, par des pays qui la respectent. C'est-à-dire qui ont dit, moi, j'arrête, je détruis mes stocks d'armes chimiques et biologiques. hein, à commencer par la Syrie.
Par la Syrie,
on connaît l'exemple. Ouais. Hein. Par contre, d'autres qui l'ont signé s'assoient dessus, comme on dit très couramment, puisqu'ils continuent à l'avoir et peut-être à inventer encore d'autres produits encore plus toxiques que les précédents. Voilà. Donc, je voulais souligner ça parce qu'il s'agit effectivement d'un crime de guerre, tout simplement. Et les effets sont dévastateurs. On a une partie de l'enclave. Heureusement, ça ne s'est pas répandu sur la totalité de l'enclave de Gaza. Mais les familles et les habitations qui ont été contaminées ont beaucoup souffert. Il y a déjà des morts de cancer, des très jeunes gens qui sont morts du cancer en quelques semaines. On a des femmes enceintes qui ont fait des fausses couches. On a de vrais dégâts, comme peuvent en faire les armes chimiques. Bon, c'est avéré. Donc il s'agit d'un nouveau type de guerre, c'est-à-dire la fausse guerre chimique menée par Israël avec un prétexte que mais on n'a pas utilisé d'armes chimiques. Non, vous avez fabriqué délibérément des armes chimiques à partir de ces produits destinés à l'agriculture. Ça mérite d'être rappelé, puis c'est l'occasion de rappeler que la guerre qui est entamée maintenant entre les Gazaouis...
Et ils sont intouchables, de la part des Occidentaux et des Américains. Oui, c'est l'enfant chéri.
Voilà, et il n'y aura pas de poursuite.
Il n'y aura pas de procès.
Il n'y aura pas de poursuite, et ils diront, à la limite, ils vont dire que c'était accidentel, comme l'assassinat. Ils ne peuvent plus dire, parce que l'assassinat de la journaliste palestinienne dont on a parlé, qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, il est avéré, y compris par la magistrature israélienne, qu'il s'agit d'un meurtre délibéré. C'est-à-dire qu'elle était visée, elle avait donc un gilet pare-balles sur lequel était marqué presse, etc. Donc elle a été assassinée délibérément. C'est tout à fait clair, mais les sanctions, je ne sais pas où ça ira. À la limite, il y aura peut-être un lampiste dans l'armée israélienne qui aura droit à 15 jours de place forte, mais je ne sais même pas si ce sera le cas. Donc on est effectivement dans ce rapport de force pure, où le droit international n'existe pas. Alors, je reviens sur ma phrase quand même, parce que vous savez, pour avoir entendu à ce micro Maître Gilles Devers, notre ami Gilles Devers, qu'effectivement, il y a maintenant des procès qui sont en cours devant la Cour pénale internationale pour condamner, enfin, le but étant de faire condamner un certain nombre de soldats israéliens qui ont tué délibérément des Palestiniens, et surtout des jeunes Palestiniens, sans défense, à distance, comme on tire des lapins quand on va à la chasse. Ouais. Donc ça prendra le temps, parce que la Cour pénale internationale est un mécanisme lourd, mais on sait, vous savez pour l'avoir entendu, que Gilles Devers est très confiant, puisqu'il a dit on est passé par la première étape consistant à faire reconnaître l'autorité palestinienne comme un état de droit, qui est donc signataire de la Convention de Rome sur la Cour pénale internationale, et qui donc peut déposer des plaintes qui sont admises par la Cour pénale internationale. Donc c'est un chemin. Alors c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui n'est pas très spectaculaire, mais en même temps, si effectivement on arrivait à des condamnations urbi et orbi et à des emprisonnements de coupables israéliens de meurtres, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, il y aurait un début. Je suis pas trop optimiste là-dessus, mais un début de renversement de la situation politique. Et souhaitons-le, bien entendu. Ce qui n'empêchera pas les combats tels qu'ils se passent à l'heure actuelle de se poursuivre. Je reste un petit peu dans la région pour vous dire quelques mots du Liban. On est tout près, parce que je me suis arrêté sur un discours du responsable des relations internationales du Hezbollah. Alors là, c'est aussi une innovation, d'une certaine façon, sauf si tu me contredis, Habib. Mais jusqu'à présent, on voyait surtout le secrétaire général du Hezbollah, M. Nasrallah. Et là, en fait, il apparaît donc qu'il y a un responsable des relations internationales, donc une espèce de ministre des Affaires étrangères, si j'ose dire, du Hezbollah, qui s'appelle M. Saïd Hamam Moussaoui.
Oui, Moussaoui, oui.
Voilà. Hein, tu connais.
Oui.
Qui a donc fait le point, il l'a fait à l'occasion de ce qu'on appelle la journée de la résistance et de la libération. C'est le 25 mai, donc c'était la semaine dernière. Et pourquoi ça s'appelle la journée de la libération et de la résistance? C'est parce que c'est le jour où le Hezbollah, car c'est bien lui qui l'a fait, a poussé l'armée israélienne en dehors du territoire libanais.
Ouais.
Ça, il faut s'en souvenir. Donc c'est la fameuse guerre de 2000. Et donc, ça, c'est un élément très important. Ça veut dire qu'il y a eu cette victoire possible, c'est-à-dire faire arrêter l'invasion de la terre libanaise par l'armée israélienne, hein, et le commémorer. Et depuis, il faut reconnaître
2006.
Que... Israël, oui, 2000, c'était l'intifada.
Ah oui, oui, ouais. Ouais, exact.
Et depuis, Israël ne s'y est plus frotté. Alors, Israël, bien sûr, vient avec des chasseurs, bombarde de temps en temps, mais il n'a plus fait aucune incursion militaire sur le territoire libanais. Et à cette occasion, donc, M. Saïd Hama Moussaoui a rappelé qu'il y avait une partie de la terre libanaise qui était occupée encore aujourd'hui par l'Israël. Alors, c'est un petit morceau du territoire sur la frontière. Voilà, les fermes de Sheba, dans la partie sud-est du territoire libanais. Une autre nouvelle sur le Liban. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit une chose très très importante, il faut que je vous la signale. Il a dit que dans l'état actuel des rapports politiques ou des rapports qui ont été établis entre les différentes communautés religieuses au Liban et qui président à la formation des gouvernements, il était nécessaire de rédiger une nouvelle constitution, que ce système qu'on appelle le système des accords de Taif, qui a été signé donc en Arabie Saoudite, ne tenait plus la route. Alors je le rappelle très très sommairement, puisqu'il s'agit de diviser les postes importants dans le gouvernement de la République libanaise, non pas entre les citoyens et les partis politiques, mais entre les communautés religieuses. Et donc il dit ça, c'est une impasse, ça ne marche plus, parce que d'une part, les communautés religieuses ne sont pas l'expression. Enfin, ce n'est pas parce que vous êtes maronite ou que vous êtes alaouite que vous pensez la même chose que votre voisin. Hein. Et donc, il faut qu'il y ait des partis structurés et qu'on arrive à une constitution où, effectivement, ce soit les opinions politiques et non plus l'appartenance à une communauté religieuse qui dicte. Hein, je rappelle que dans les accords de Taif, donc, le président de la République, qui est à l'heure actuelle M. Aoun, ancien, je ne sais pas s'il est encore général, mais il l'a été, donc, est un chrétien maronite.
Exact.
Oui. Le premier ministre doit être un sunnite. Et le président de l'Assemblée nationale est un chiite. Voilà. Donc, à partir de ça, effectivement, il y a une espèce de blocage politique institutionnel. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des blocages parce que même des gens qui ne sont pas très nombreux disent « Nous, on a droit à ce poste et on le veut, qui que soit d'ailleurs le candidat qu'on met à ce poste-là. » Et vous savez qu'on a ils ont de gros problèmes pour trouver un premier ministre sunnite qui soit présentable. Alors, je mets le mot entre guillemets, présentable, c'est-à-dire qui ne soit pas trop corrompu, pas trop violent, pas trop bête, etc. Mais ça, du point de vue d'une république...
Et surtout pas de relations étrangères.
Voilà, et surtout pas, pas acheté par un autre, puisqu'en fait, on sait que le premier ministre sunnite, en fait, ne peut pas être désigné s'il n'a pas l'aval de l'Arabie saoudite. Qui lui finance ses campagnes, etc. Ouais. Donc, on a là un système qui est bloqué par ces interventions internationales, par le fait de la menace israélienne qui est toujours là, même si elle a été repoussée donc, en 2006, le 25 mai de cette année-là. Et puis ce système qui fait haut de toutes parts. Alors après, on vous dit le Liban s'est corrompu, etc. C'est pas ça le problème. C'est que les institutions qui ont été mises en place et qui donnent un pouvoir à un pouvoir extérieur qui, avec de l'argent, essaye de faire la politique qu'il a décidée, lui, et qui n'est pas la politique des Libanais, c'est tout à fait clair. Bon, ce système-là est au bout de... Il est complètement à bout de bord, même si, encore, la France en particulier, l'Arabie saoudite, les États-Unis essayent de faire avancer leur candidat. Alors chacun va trouver, chez les sunnites, chez les chiites, quelqu'un qui...
Ils en profitent de cette...
Alors, le problème étant encore plus compliqué, c'est que le Hezbollah n'a droit, dans ce partage qui était antérieur, donc à l'émergence du Hezbollah, le Hezbollah n'a droit à rien dans ce partage des grands postes.
Alors qu'il est le plus populaire.
Qu'au niveau des élections au Parlement, il est le plus populaire et c'est lui qui a le plus de représentants. Mais il n'a aucun des trois postes clés, ni la présidence de la République, ni la présidence de l'Assemblée nationale, ni le poste de Premier ministre.
Là, je ne sais pas si tu es au courant, Nabi Berri, il a été élu aujourd'hui.
Aujourd'hui ?
Oui.
À son poste, Nabi Berri, donc c'est le chiite d'un autre mouvement qui n'est pas du Hezbollah, qui est le Hamal. C'est un chiite qui donc a retrouvé, c'est ce que me dit Habib aujourd'hui, son poste de président de l'Assemblée nationale. Mais bon, tant mieux pour lui, mais on est toujours dans ce découpage est un découpage qui est hors du temps, c'est-à-dire complètement inadapté, et qui fait que les intérêts de puissance étrangère ou de puissance d'argent sont décisifs pour faire de ce pays une espèce d'endroit où chacun se sert. Il vient faire ses courses et vient... Alors, à propos de faire ses courses, la police libanaise, s'il y en a une quand même, vient d'arrêter un prince saoudien qui était en poste à l'ambassade de Beyrouth. Et ce monsieur se livrait à du trafic de captagon. Alors, le captagon, vous savez, c'est un produit donc, toxique qui permet...
Des pastilles.
Des pastilles qui ont été beaucoup utilisés, qui le sont sans doute encore par les djihadistes, c'est-à-dire qui rend un peu inconscient de la réalité des choses. C'est une espèce de dopant, une espèce d'amphétamine qui vous donne un sentiment de force surhumaine. Et ce monsieur avait des dizaines de kilos de captagon qu'il allait convoyer vers le Koweït en profitant de son passeport diplomatique. Bon, il a été arrêté, mais ça veut dire, c'est un petit fait parmi d'autres, mais ça veut dire qu'au Liban, tous les trafics sont possibles et les influences extérieures, comme celle de l'Arabie Saoudite et un diplomate qui fait du trafic de drogue. Bon, alors, il n'est pas le seul, hélas, on va parler de la Colombie tout à l'heure, vous verrez que ce n'est pas plus brillant, mais je voulais m'arrêter là-dessus pour parler de ce pauvre Liban qui, quelles que soient les pressions qu'ils subissent, et ce que tu me dis sur la réélection de Nabih Berri, montre que malgré tout, la classe
politique... Et son adjoint.
La classe politique libanaise résiste à des... Alors qu'elle est dans une position faible. C'est un petit pays, les moyens sont très limités, les moyens de l'appareil politique. Il y a des gens extraordinairement riches au Liban, mais les moyens du pouvoir politique sont petits, il est dépendant, la situation économique n'est pas bonne et tout. Et donc, arriver quand même à tenir le coup, avoir donc un président de l'Assemblée nationale, un président de la République qui restent à leur poste et qui font comme ils peuvent leur travail, c'est déjà en soi une réussite que je salue. Bien, cette petite introduction est en fait, je vais vous parler de... Alors, il y a différentes choses. Oui, les petites choses concernant le Moyen-Orient, on va continuer là-dessus, parce que ça, c'est la guéguerre des saisies de navires. Alors, il y a de semaines, c'était à la fin du mois d'avril, un pétrolier qui était propriété d'une compagnie maritime russe, qui avait été placé sous pavillon iranien en raison de l'embargo et du blocage de toutes les relations avec la Russie depuis l'Occident. Donc ce pétrolier qui s'était réfugié, paraît-il, à cause du mauvais temps, dans une crique d'une île grecque, a été saisi par les gardes-côtes grecs au prétexte qu'il aurait été russe. Alors il avait été russe, et puis effectivement, il avait été racheté donc, par des Iraniens, et il circulait sous pavillon iranien. Et donc il avait parfaitement le droit de le faire, puisque... alors il avait parfaitement... Vous savez que l'Iran, normalement, je reviens là-dessus, l'Iran, normalement, est encore soumis à des sanctions, puisque, je rappelle, il y a eu un accord donc, pour sortir l'Iran des sanctions qui lui avaient été infligées du temps d'Obama. Et puis, cet accord n'a pas été, remis en cause. Et donc, on est toujours dans des négociations qui avancent plus ou moins vite, qui avancent pas beaucoup, faisant que, bien que l'Iran ait rempli la totalité de ses engagements, c'est-à-dire qu'il a confirmé qu'il ne possédait pas l'arme nucléaire, qu'il n'avait pas l'intention de la produire, etc., personne ne veut le croire, parce que c'est tellement facile de le mettre en punition pour des faits qu'il n'a pas commis. On ne connaissait pas le seul cas. On a mis en punition Kadhafi aussi. On a mis en punition d'autres gens. Voilà. Et donc, ça n'arrête pas. Donc, c'était assez facile de dire ce pétrolier iranien, donc on l'arraisonne. Et c'est les gardes-côtes grecs qui l'ont fait. Mais ça n'est pas passé inaperçu et il y a eu la riposte cette semaine donc de la part des Iraniens. Les Iraniens, donc les gardes-côtes iraniens, qui sont, vous savez, dans le golfe arabo-persique, sont particulièrement bien équipés, avec toute une série de petits bateaux de guerre, mais très mobiles, très actifs, ont arraisonné deux pétroliers grecs. En disant, c'est la réponse, comme on dit dans les journaux, du berger à la bergère. Nous aussi, on est capable d'arrêter vos bateaux, puisque, en fait, vous avez saisi un de nos bateaux, on saisit deux des vôtres.
Dont la contenance, c'est les doubles de...
Ah, c'est des gros, c'est des pétroliers de 100 000 tonnes. Alors, pourquoi deux grecs? C'est très facile, puisque vous savez que la flotte mondiale appartient quasiment pour la moitié à des armateurs grecs. Le rappelle, ça fait peine aux Grecs, mais il faut toujours le dire, ne payent jamais d'impôts en Grèce. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde entier, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a en Grande-Bretagne, etc., des Grecs qui possèdent des flottes considérables, surtout des pétroliers, des transporteurs de minerais, des transporteurs de grains et tout, et qui ont un lien le moins étroit possible avec leur patrie grecque d'origine. C'est-à-dire qu'ils y ont peut-être à la rigueur une maison de vacances où ils viennent voir la famille, mais surtout, leurs compagnies ne sont pas immatriculées en Grèce, ils n'y payent pas un sou d'impôt, à charge pour le gouvernement grec de trouver à survivre, alors qu'il est entouré d'anciens citoyens, ils ont même la citoyenneté souvent, ils l'ont gardée, qui croulent sous l'argent. Donc on a une, j'allais dire pourquoi pas, des oligarques, enfin, une aristocratie bourgeoise grecque qui croule sous l'argent et qui laisse le pauvre État grec se faire dépecer par la Banque Centrale Européenne, par la Banque d'Allemagne, par les banques françaises, etc. Une situation très, très triste qui ne date pas d'hier, il faut le dire, mais qui est douloureuse, puisqu'au fond, ce pays, si les citoyens, honnêtement, les citoyens comme les armateurs que je cite, jouaient simplement le jeu, il ne s'agit pas de dire qu'on les mettrait torse nu et qu'on leur prendrait tout, mais si jouaient simplement le jeu de dire « je suis citoyen grec, j'immatricule ma compagnie en Grèce et je paye normalement mes impôts comme tous les autres Grecs », ce pays serait totalement transformé et il ne serait pas en train de se vendre par morceaux à telle compagnie, y compris qu'elle soit chinoise, on a parlé beaucoup du port du Pirée. Vous savez, je l'ai dit, je le redis, que la compagnie française CMA-CGM a acheté le mois dernier le port de Thessalonique, qui est le deuxième port de Grèce. Donc ce pays serait entre les mains des Grecs. Là, il est entre les mains du grand capital international. Point.
C'est un peu comme les oligarques au Liban. Pareil, toutes les fuites de capitaux à l'extérieur.
Raison, tout à fait. Voilà. Et il y a des Libanais extrêmement riches, effectivement, ils n'en font pas profiter leur pays. C'est seulement une base où on vient de temps en temps, on a une villa dans la montagne.
On se promène. Une maison d'été.
Voilà. Et puis on fait bien attention à ne pas rester là au milieu, vous comprenez, parce que si jamais un milliardaire libanais se rencontrait des militants du Hezbollah au coin de sa rue, peut-être ça se passerait mal. Peut-être ça se passerait mal. Bon, et donc il ne veut pas courir ce risque, donc il voit ça de très très loin et il se remplit largement les poches. Voilà, fin de la chronique sur le Moyen-Orient et on va passer à d'autres lieux. Alors si, quand même, il y a un lien direct. Je vais vous parler du blé russe, quand même, y a un lien. Il y a un lien, puisqu'on est en train de vous raconter que la guerre d'Ukraine va affamer la population égyptienne, en premier, puisque 110 millions d'habitants, dépendant très largement d'importations de blé, c'est le premier importateur de blé mondial. Et on dit, à cause de la guerre, le blé n'arrivera pas. Alors on vous parle du blé ukrainien, mais on ne vous parle pas du blé russe. Et à quoi la Russie, donc Poutine lui-même, a répondu, nous, on est prêts à vendre notre blé. On le vend toutes les années, on a de l'excellent blé qui est de la même qualité que celui de l'Ukraine, puisque ça vient exactement des mêmes terres géologique, et ça c'est vrai depuis des temps immémoriaux, on est prêt à le vendre, mais il faut qu'il n'y ait plus d'embargo, il faut que vous nous laissiez faire notre métier normalement,
c'est ça. Voilà,
on vendrait, et donc que les Égyptiens ne mourraient pas de faim si vous nous laissiez vendre notre blé comme on en a l'habitude, et si les Égyptiens l'achètent, ils peuvent aussi acheter du blé ukrainien, on n'empêchera pas, a-t-il précisé, les Ukrainiens d'exporter leur blé, à condition que nous puissions faire la même chose, puisque l'Ukraine a peut-être souffert de la situation de conflit, et puis du fait qu'il y a une partie de sa population qui s'est enfuie.
Je ne sais pas si tu es au courant de ce bateau, le bateau qui a été en Égypte.
Ah non, je ne sais pas encore, vas-y, raconte-nous.
Oui, oui, la Russie a envoyé un bateau de blé à l'Égypte.
Eh ben voilà.
L'Égypte a refusé.
Ah.
Alors, il a refusé et ce blé, il se trouve maintenant à Tartous. En Syrie.
Tu l'avais dit. Voilà. Oui, parce que alors on imagine que l'Égypte a subi des pressions pour que cette campagne donc anti-russe puisse se développer en disant. L'idée, c'est de dire à l'opinion mondiale. Pas tout le monde dans le monde le croit, mais au moins dans l'opinion occidentale qui est en guerre psychologique contre la Russie, de dire si les Égyptiens meurent de faim dans 3 mois, ce sera la faute de Poutine. Enfin, en gros, c'est ça. La propagande, elle est très simplette. C'est lui qui va affamer les Égyptiens. Et donc, la réponse de la Russie, elle est très simple. Levez l'embargo, laissez-nous vendre notre blé. À qui l'achète, on le fait. Il n'y a pas que l'Égypte. Il y a d'autres pays d'Afrique qui sont très dépendants. Il y a le Bénin, il y a l'Érythrée, qui sont des clients réguliers du blé russe. Il faut savoir, et ça c'est tout à fait important de le noter, c'est que le blé russe a repris une place sur le marché mondial depuis à peu près une dizaine d'années. C'est-à-dire que dans le cadre de la catastrophe économique qui a suivi la disparition de l'URSS. Donc dans les 10 années...
Il était quatrième mondial et maintenant il se trouve parmi les premiers, je crois.
Mais il y a eu un écroulement de la production. Ouais. Toutes les productions industrielles, agricoles, la vie sociale a été complètement décomposée dans les années 90-2000. Et petit à petit, donc, la Russie, l'agriculture russe a repris sa place. profitant donc de son expérience historique, de ses excellentes terres à blé qu'elle a donc dans la partie sud-ouest de son territoire, et elle a repris sa place dans les tout premiers exportateurs mondiaux. Alors, qu'est-ce que ça cache, ça, en fait ? Cette volonté de dire l'embargo interdit d'eux, ça cache, en fait, ça permet d'expliquer qu'il n'y a pas assez de blé sur le marché, puisque le blé russe, qui est une contribution importante, ne peut pas arriver dans l'état actuel. Et ça permet à des gens qui, eux, ne font pas de politique, je mets ça entre guillemets, de s'enrichir en spéculant sur la crise du blé. Parce que la crise du blé, ça permet de dire... Le fait de dire qu'il n'y aura pas de blé russe sur le marché ce printemps, pas plus que de blé ukrainien d'ailleurs, fait que ceux qui produisent du blé vont dire « Ah, mais il va y avoir une demande extraordinaire, je vais pouvoir vendre mon blé à des prix jamais atteints, parce qu'aucun gouvernement, je pense aux Égyptiens en particulier, mais il y en a d'autres, ne pourra dire « Moi, j'achète pas, c'est trop cher. Hein, » Vous ne pouvez pas dire à une population « Je vous laisse crever de faim parce que j'ai décidé que c'était trop cher. Hein, » C'est pas possible. Hein. Et l'Égypte a une longue expérience des émeutes du pain et des émeutes du blé, qui fait qu'aucun gouvernement, aussi autoritaire soit-il en Égypte, ne prendrait ce risque-là.
Depuis la Bible,
oui, en Joseph. Fait, tout à fait. Et donc ce jeu idiot, politiquement idiot, en fait, enrichit les grands négociants du blé qui vont vendre le blé uruguayen, le blé argentin, le blé de la grande plaine du Middle West américain à des prix qu'ils n'ont jamais obtenus. C'est-à-dire que cette propagande et cette fausse guerre qui est menée contre la Russie permet l'enrichissement des spéculateurs internationaux. Il faut savoir que le cours du blé mondial se discute dans une bourse qui est à Chicago. Hein, c'est la bourse des produits de base. Hein, et donc à Chicago, c'est pas des négociants russes qui interviennent. C'est une série de boîtes qui sont entre les mains d'Argentins et d'États-Unis qui font la pluie et le beau temps depuis des années sur le marché mondial. Mais pour eux, cette crise donc engendrée par la guerre en Ukraine, cette crise est pour eux un événement extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais vendu le blé aussi cher.
Voilà. C'est un peu comme l'huile.
Oui, ça, voilà. Mais là, c'est le cas le plus flagrant, parce que l'huile peut dire on fait un peu moins de cuisine, on se débrouille. Mais s'il n'y a plus de pain dans les boulangeries, il y a des pays où, effectivement, les émeutes, c'est le lendemain matin.
Ouais,
ça va très, très vite. Et l'Égypte a payé pour le savoir. Donc, je voulais expliquer ça. Et donc, j'espère que... Ben, je ne sais pas, d'ailleurs, si Poutine sera entendu, si la Russie sera entendue. Mais elle dit elle est prête à envoyer son blé. D'ailleurs, il est là pour être vendu. Il y en a pour sa population. Il n'y a pas de souci. On ne prive pas les Russes de pain. Hein. Mais elle a une place importante d'exportateur sur le marché mondial. Et c'est un blé d'excellente qualité qui est connu pour ça. On en est là, enfin, c'est les aspects les plus stupides de cette tension, de ces embargos, etc. Il y en aura d'autres parce que, hélas, on n'a pas l'impression que du côté occidental, encore plus du côté européen, on soit revenu à la raison. C'est-à-dire que la prise en main des intérêts de l'Union européenne, je m'arrête deux secondes là-dessus, par le trio turbulent, j'allais dire, pour reprendre un titre de la comtesse de Ségur. Donc le trio Macron, Draghi, Scholz est en train de s'installer comme ayant le pouvoir sur les 25 autres ou les 24 autres.
Ouais.
Ça, je suis pas sûr que ça passe comme une lettre à la poste chez les Espagnols, chez les Portugais, chez les Hollandais et d'autres. Hein. Donc il y a une tentative de concentrer le pouvoir entre les trois plus gros pays de l'Union européenne qui, à mon avis, remet en cause l'esprit européen dont on nous parle beaucoup, dont on nous rebat un peu les oreilles, qui était un esprit, les pays se valent, hein, et le petit, qu'il soit estonien...
Ce n'est pas démocratique.
Ah, c'est pas démocratique du tout. C'est une espèce d'oligarchie politique qui se met en place au Lyon. Il y a une espèce de trio, hein, une troïka, on aurait dit à d'autres périodes, une troïka qui essaye de décider de l'avenir de l'Europe et qui essaye de décider dans le sens militarisation de l'Europe, agressivité vis-à-vis de la Russie, c'est clair, avec sanctions supplémentaires. Et on a l'impression, en fait, que ce trio, en fait, sert d'inspirateur à Mme Ursula von der Leyen, qui parle de plus en plus haut, alors qu'elle n'est jamais que la présidente de la Commission, c'est-à-dire l'exécutif de l'Europe, et que les décisions politiques de l'Union européenne, telles qu'elles sont aujourd'hui dans les textes, sont des décisions prises en Conseil des ministres ou en Conseil des chefs d'État. Là, on a une espèce de basculement du pouvoir dans le système européen, c'est-à-dire l'appropriation du discours officiel par trois chefs de gouvernement ou d'État, dont le nôtre, et l'expression de cette prise en main par ces trois-là, par Mme von der Leyen, qui parle au nom de 27 sans que jamais les 24 autres aient donné leur avis. Alors, pour l'instant, ça grince un peu ici et là, ça grince un peu avec la Hongrie, ça grince un petit peu avec le Danemark, etc. Mais je pense que ça ne peut que s'accentuer avec cette mise en scène d'un gouvernement européen avec ses trois chefs d'État à leur tête. Alors, ça va très très bien pour M. Macron, qui se retrouve encore plus puissant, au moins dans sa tête, qu'il n'était auparavant. Mais ça n'arrange pas les affaires de l'Union. Et au fond, peut-être, enfin, pour moi, c'est là un des signes de la fracture de cette Union européenne, qui est faussement démocratique, où les gros sont en train de manifester qu'ils veulent écraser les petits, et que c'est les gros qui décident, et les autres tant pis.
D'ailleurs, ils discutent avec Poutine, sont les trois...
Voilà, tout à fait, c'est eux, on téléphone à Poutine, et les autres, tant pis pour eux, y compris les Polonais qui sont...
Pas leur avis.
Non, les Roumains. Enfin, si les autres servent à la politique agressive, c'est-à-dire on envoie des troupes européennes en Roumanie, en Pologne, etc., avec les troupes américaines, mais ça s'arrête là. Donc là, on a un facteur de crise dans l'Union européenne telle que nous la connaissons, qui s'est accentué évidemment avec le départ de la Grande-Bretagne, parce qu'avant le Brexit, c'était pas si facile. Enfin, l'Angleterre n'aurait jamais accepté que les trois chefs d'État que je viens de citer prennent des décisions dans son dos. Et donc, ça leur a, d'une certaine façon, laissé beaucoup de liberté de parole. Et ils en abusent, bien entendu. Alors, l'Europe en sortira probablement pas grandi, parce que derrière tout ça, cette espèce d'affirmation politique, on est les maîtres de la situation en Europe, on va militariser l'Europe, on va se donner d'un budget de défense important, on va montrer les dents vis-à-vis de la Russie, il y a un extrême affaiblissement économique. Extrême affaiblissement économique qui se traduit par les taux de croissance qu'on a pour le premier trimestre de 2022 dans la plupart des pays de l'Union européenne sont extrêmement faibles et très inférieurs aux prévisions qui avaient été faites à la fin de 2021. C'est-à-dire on est passé des 3-4% de taux de croissance à des 0,5-1. Donc la crise économique assortie de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix, est installée déjà dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Et c'est ça que nos trois chefs d'État là, essayent de masquer en disant « on est les maîtres de l'Europe, on fait ce qu'on veut, on va en finir avec la vilaine Russie et tout ». C'est pas du tout ça. Regardez, alors moi je dis aux citoyens français, regardez dans votre assiette, regardez votre bulletin de salaire, vous verrez que l'Europe ne fait pas votre bonheur. Et elle ne s'en occupe pas en plus, puisqu'il n'y a pas de lutte contre l'inflation. On n'achète plus de pétrole aux Russes, on fait ci, on fait ça. Hein, on n'achète pas de blé, bien entendu, aux Russes. Ça, ce n'est pas un problème pour la France, puisqu'elle en a et qu'elle en exporte. Hein. Donc regardez ça, la réalité économique de la situation de l'Union européenne est très mauvaise. Donc attendez-vous, citoyens européens, français, au passage, attendez-vous à des difficultés économiques sérieuses qu'on ne vous fera apparaître que dans quelques mois, une fois que vous aurez gentiment voté aux élections législatives. Voilà. Merci, M. Macron. Voilà. Je finis là-dessus. Alors, on va faire une coupure musicale pour passer à un autre sujet que je voulais aborder. Je voulais vous parler de la Colombie.
Oui, j'allais te le dire, n'oublie pas la
Ando volando buscando el redwood pinceñí. Represento la montaña donde crecí, chupando caña mientras sembraba el frijol y el maíz. El arte para mí es la única armadura para gritar resistencia en medio de la injusticia y en medio de la guerra. Sigo haciendo cultura, mostrando el Cauca que no muestran las noticias. La avaricia de un gobierno opresor e indiferente, la ignorancia de los ricos y un presidente indolente hace que la gente se tome la carretera. Y obviamente por mi raza yo levante mi bandera. De ninguna manera verán al pueblo de rodillas. Somos originarios y morimos, somos semillas de la cuenca Isabelilla hasta Cali en Chiva por nuestros derechos, más techos y menos IVA. Iván Duque, Colombia no tiene miedo, somos sangre indígena y mente revolucionaria. Iván Duque, Colombia te saca el dedo y grita fuera con tu reforma tributaria. Iván Duque, Colombia no tiene miedo, somos sangre indígena y mente revolucionaria. Iván Duque, Colombia te saca el dedo y grita fuera. Con tu reforma tributaria yo camino la palabra, y la palabra es resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Hay que ir al paro y pararse con rebeldía, como Quintín lo hacía con la puta policía. Defendían al pueblo y al pueblo le están disparando. Porquería de gobierno, yo me pregunto hasta cuándo. Tenemos que aguantar el abuso de autoridad. La calidad de vida que prometieron, ¿dónde está? Estado asesino, el paro no para. La gente se para duro aunque el policía dispara. Estado asesino, y te lo digo en la cara, los ricos también se mueren aunque su vida sea cara. Estado asesino, el paro no para, la gente se para duro aunque el policía dispara. Estado asesino, y te lo digo en la cara,
los ricos también se mueren aunque su vida sea cara.
Yo, Colombia resiste, el Cauca resiste, Cali resiste, aguante al paro, aguante a la minga, rap y resistencia. Yo soy John Jota.
Voilà, alors c'était une petite chanson d'un rappeur colombien qui faisait référence à des événements qui ont précédé les élections présidentielles dont je vais vous parler, qui ont eu lieu donc ce dimanche, le premier tour. Parce qu'à la fin donc 2019 et au début de 2020, il y a eu donc une tentative, on l'entend un peu dans la chanson, de réforme fiscale introduite par le président Duque, dont vous avez entendu son nom dans la chanson si vous entendez l'espagnol. Oui, okay. Alors, c'était pas une bricole, c'était un quasi-double de la TVA, enfin, c'était un massacre fiscal. Donc ça a suscité une réaction populaire de masse, on appelait le paro, là, la grève générale, qui a duré pendant des semaines, qui a été réprimée à la colombienne, parce que bien entendu il y avait la police qui empêchait les manifestants. Il y a quand même eu, la police a quand même tué 80 personnes dans les manifestations. Bon, mais ça fait partie, hélas, j'allais dire, enfin, j'ironise pas parce que c'est très très triste, mais ça fait partie de la loi du sang qui gouverne la Colombie. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que donc la réforme fiscale a été remise pour plus tard, mais ça a donc créé un véritable choc. Il y a eu des manifestations de rue pendant des semaines et des semaines, à peu près dans la totalité du pays, malgré cette répression violente et sanglante. Et on a d'une certaine façon maintenant des traces, les conséquences politiques de ce choc, qui a été un choc fort social, donc de la fin 2019-2020. Il y a toute une série de chansons, j'en ai pris une pas au hasard, mais il y en avait beaucoup d'autres, ça a beaucoup inspiré. On avait un mouvement social fort qui, alors comme d'autres mouvements sociaux de ce type-là, occupe la rue et la scène médiatique pendant des jours et des jours et des semaines. Et puis, après, on ne sait pas quelle forme ça prend. Alors, quelle passe ? Parce que, d'une part, la répression a été féroce, donc je vous dis 80 morts chez les manifestants. Et puis, il n'y a pas de force politique suffisamment puissante qui soit en capacité de dire, ben voilà, l'expression du mouvement passe par notre courant, par ce cadre politique qu'on vous propose. Alors, on est entre les deux, c'est-à-dire il n'y a pas aujourd'hui une opposition au régime dictatoro-présidentiel donc, qui est présidé par M. Duque, qui est donc un homme de Uribe, donc le dictateur démocrate, enfin, entre guillemets, de la démocratie colombienne. Mais il n'y a pas en face un parti politique fort qui soit en capacité de s'imposer comme expression large des intérêts de la majorité du peuple colombien, qui pourtant en a bien besoin. Je rappelle que l'opposition politique en Colombie est un sport extrêmement dangereux. L'opposition politique, que ce soit pour défendre les droits de l'homme, pour défendre les intérêts des paysans, pour défendre la propriété paysanne, pour défendre la propriété d'une source d'eau, pour défendre enfin, toutes les propriétés de base qui permettent la vie des communautés paysannes, agricoles, dans les villages, etc., toutes ces propriétés-là ne sont pas garanties. Il y a bien une loi, des constitutions, un parlement et tout, mais personne en Colombie, s'il est dans la classe pauvre, en particulier dans les régions rurales, n'est sûr de savoir que si le lendemain, il aura encore son bétail, son champ, sa ferme, etc. Parce que partout. Alors, c'est inégal selon les régions, selon on est dans la montagne, la plaine, mais partout, il y a des forces donc non gouvernementales, des escadrons paramilitaires qui vont faire régner la terreur pour dire que le droit de propriété, le droit d'un paysan à cultiver sa terre, le droit d'un paysan à avoir des animaux, à pouvoir vendre ses produits, peut sans arrêt être contesté. Ça va même loin, puisque dans les zones urbaines aussi, on fait état, alors ces milices-là, ces groupes paramilitaires, font état d'une incertitude qu'ils créent souvent eux-mêmes, puisqu'ils circulent armés dans les rues, au vu et au su de la police qui les laisse faire. Et pour échanger la tranquillité, un petit commerçant dans une petite ville ou moyenne de Colombie va devoir payer 20% de sa recette pour être protégé. C'est-à-dire qu'il a en face de lui des gens qui peuvent, le lendemain matin, venir lui tirer une balle dans la tête et qui viennent en disant « si tu nous donnes 20% de ta recette, on te protège ». Et voilà comment ces gens-là deviennent riches. Parce qu'à 20% de la recette du petit commerce, on monte vite. Et on peut s'acheter des armes neuves, etc. C'est ça la Colombie profonde. Et ça, bien entendu, on ne nous le dit pas. On dit « il y a des élections, c'est très bien ». Bon, oui, il y a des élections. Il y a des élections, mais il faut savoir comment tout ça fonctionne un peu dans le détail. Alors j'arrive un peu plus précisément à la situation qui nous amène à ces élections présidentielles dont le premier tour a eu lieu il y a 2 jours. Il s'est créé quand même, c'est là l'événement politique, et donc une espèce de contre-coup donc des manifestations du Paro National de la fin 2019, un bloc politique fait d'une série de partis, grands et petits, avec des orientations diverses qu'on peut citer déjà, disons, de gauche ou progressistes, qui ont réussi à se regrouper sous une étiquette unique et sous un candidat, pour appuyer un candidat unique à la présidentielle, l'étiquette unique s'appelant le Pacto, Pacto Democratico. Bon. Pacto Historico, pardon, le titre exact. Bon. Mmh. Donc ça, c'est une nouveauté, en ce sens qu'il y a effectivement un regroupement de partis qui essayent de constituer une force électorale suffisante par rapport... J'appellerais ça le système, c'est-à-dire le système qui a produit Uribe, qui a produit son successeur Santos, qui a produit son successeur Duque, et c'est le système qui fonctionne avec la violence, avec les paramilitaires qui laissent agir et même qui l'orchestrent en sous-main. Et puis je parlais un peu plus particulièrement de la question de la drogue pour vous expliquer ce qui fait le malheur de ce pays-là. Bon. Mais revenons à nos élections. Donc ce dimanche, premier tour des élections présidentielles, où là on est dans un classique pour les constitutions que nous connaissons, donc une élection sur un individu avec des soutiens électoraux, donc différents partis, qui se présentent au suffrage et qui débouche sur une élection si au premier tour un candidat a 50% des voix. Bon, classique, rien de surprenant. Bon. Alors il se trouve que le candidat de cette gauche nouvelle, qui s'appelle M. Gustavo Petro, a obtenu 40% des voix, ce qui est un joli score. Et alors, il est le premier, donc, et le mieux classé des candidats à l'issue de ce premier tour. Et il était, donc, il avait une adjointe, il y a un poste de vice-président, comme on connaît ça aussi dans d'autres pays. C'est une militante, donc, appelons ça une militante des droits de l'homme, mais qui est une femme, donc, d'origine africaine, qui s'appelle Francia Marquez, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui est une militante de terrain, très, très combative, très respectée. Et donc, ça faisait un excellent, comme on dit aux États-Unis, un ticket présidentiel de très, très bonne facture. Bon, c'est ce qui a amené à ce score qui est, je dis, un score historiquement haut, puisque c'est la première fois qu'un candidat progressiste arrive à ce niveau-là. Et j'allais ajouter cyniquement, et ne prend pas une balle dans la tête le soir même. Ouais, ouais. Bon, parce que ça peut toujours arriver. Alors, ensuite de lui, il y a deux autres candidats. Il y en a un qui s'appelle M. Gutiérrez et il y en a un autre qui s'appelle M. Hernandez. Alors, je les situe. M. Gutiérrez, c'est le candidat de l'équipe dictatoriale au pouvoir, donc l'équipe Uribe, Duque, Santos, etc. Bon, donc, avec du sang sur les mains, satisfaction de lui, les paramilitaires et les bandes armées à sa disposition, etc. L'intérêt du scrutin, c'est qu'il n'est arrivé que troisième. Donc il ne sera pas au second tour. Ça, c'est une innovation. C'est-à-dire que le camp des bandits au pouvoir depuis des décennies n'a pas de candidat au deuxième tour. C'est la première fois. Voilà. Pour eux, c'est une mauvaise surprise. Bon. Qui peut les rendre fous, peut-être.
Le Venezuela va être content.
Voilà, qui peut les rendre fous. Bon. Alors, il reste un deuxième candidat qui est assez loin donc, de M. Petro au premier tour, puisqu'il est à 28%. Petro est à 40%. Qui s'appelle M. Hernandez. Alors M. Hernandez n'est pas un nouveau venu à la politique puisqu'il est maire d'une grande ville, d'une des provinces de la Colombie, mais il arrive comme un peu le nouveau en politique, alors qu'il n'est pas nouveau du tout, il se fait présenter un peu comme le Trump colombien, ce qui n'est pas forcément très très stimulant. Bon. Et il a l'air de prendre ses distances par rapport au système. C'est-à-dire, en fait, son apparition et son émergence et sa présence au second tour vient du fait qu'il y a une partie de l'électorat classique du groupe dictatorial fascisant, donc Uribe Santos Duque, qui a dû se dire, après les événements de 2019, ces manifestations populaires de masse, etc., on est moins présentable et il vaut peut-être mieux promouvoir un candidat moins marqué comme étant des nôtres, comme étant un de nos complices, etc. D'où probablement une partie de l'achage de l'électorat classique de la droite uribienne en faveur d'Hernandez au détriment de Gutiérrez.
C'est un peu comme le Front National en France.
Oui, alors on a effectivement une espèce de division de la droite. Alors une droite qui deviendrait un peu plus présente, une droite extrême quand même, parce que violente et assassine, qui deviendrait un peu plus présentable avec Hernandez, et le plus dangereux qui perd un peu du terrain et qui donc est troisième et ne sera pas présent au second tour, qui aura lieu le 19 juin. Bon. Ça, c'est le cadre électoral classique. Alors, je fais un commentaire de journaliste qui parle des élections, mais ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout. D'abord, parce qu'au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, M. Petro, du fait qu'il a réuni avant, dans le Pacto Histórico, la quasi-totalité des groupes politiques qui étaient d'accord sur les options dont il était porteur, que je vais détailler, n'a pas beaucoup de réserves de voix. C'est-à-dire, il a fait le plein de ses voix au premier tour. On ne voit pas trop où il pourrait avoir de nouvelles voix. Certainement pas des électeurs de Gutiérrez et certainement pas non plus de Hernandez, qui a fait un discours qui est quand même assez radicalement différent du sien. Donc, il a 40%, mais on peut craindre qu'au deuxième tour, il ait peut-être un petit peu plus, mais pas de là à gagner 10% venu d'on ne sait pas où. La question reste posée. De l'autre côté, il y a donc 28% pour M. Hernandez et 24% pour M. Gutiérrez. 28 et 24, ça fait 52. Ouais. Bon. Alors même si... Alors on dit, a priori, la deuxième tour, il est perdu. Bon, parce que même si tous les électeurs de Gutiérrez ne vont pas chez Hernandez, encore qu'il n'y ait pas trop de doute là-dessus, mais ils ont une avance sur le papier qui est quand même très, très importante. Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui, à mon sens, pêchent par optimisme et qui disent « Ah, ben, il va y avoir un mouvement à la suite du mouvement donc du Paro National de la fin 2019. Le peuple va sortir pour voter pour Petro. » Le peuple va peut-être sortir. Toujours est-il qu'il n'est pas sorti au premier tour puisque les taux de participation, c'est à 54%, sont à un niveau tout à fait classique. Il n'y a pas eu tout d'un coup une masse de gens qui se sont mis à aller voter. Ouais. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la situation donc, des droits élémentaires en Colombie est telle que se manifester électoralement à un endroit, c'est dangereux pour sa vie. Et donc ceux qui votent, c'est ceux qui n'ont pas trop d'inquiétude ou dans les grandes villes. Mais il y a des endroits où vous n'allez pas dire « je vote pour Petro ». Parce que vous serez peut-être mort demain matin. Hein. Ouais, c'est ça le système. Donc les possibilités de gain d'électeurs par Petro au deuxième tour sont, à mon sens... Je le regrette, mais sur un sens relativement faible.
Ouais.
Ceci étant dit, bon, il faut resituer donc ce pays-là pour ce qu'il est. Alors, il y avait des choses intéressantes dans le Pacto Histórico. Par exemple, Petro, dans ses discours électoraux, a dit qu'il allait reconnaître le Venezuela et le Nicaragua. Bon, Cuba, ce que les autres, évidemment, ne sont pas du tout prêts à faire.
Mais il y a des surprises en Amérique latine.
Voilà. Alors donc, il y avait des ouvertures, disons, progressistes intéressantes. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Alors, je vais m'arrêter quand même sur un des éléments qui est très important dans la situation colombienne, qui est le fait que la Colombie continue, avec une petite baisse dans les effectifs, mais l'ONU suit ça de très près, 70% de la cocaïne mondiale. Voilà. Alors, elle est aussi marquée par la drogue que le Maroc l'est avec le hashish, que d'autres pays le sont avec l'héroïne, etc. 70% de la production mondiale. Et alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire quand on est à la tête de 70% de la production mondiale. Ben, il faut que cette production, elle s'écoule et elle se vend au niveau mondial. C'est pas les Colombiens. Alors, peut-être ils en consomment un petit peu, mais c'est pas les Colombiens qui la consomment. Ce sont des étrangers. Alors, le premier consommateur de la cocaïne colombienne, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein, et ça fait d'ailleurs beaucoup d'effet, puisque les records de morts par overdose ont été battus en 2021 aux États-Unis. Il y a eu 100 000 morts par overdose. Pas que la cocaïne d'ailleurs, mais 100 000 morts par overdose. Les chiffres montent, donc on a un vrai progrès de la mort par la drogue aux États-Unis. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Ensuite, il y a l'Europe et ensuite, maintenant, l'Asie, puisque malgré l'héroïne ici et là, en Afghanistan ou autre, l'Asie s'est mise à consommer de la cocaïne dans certains pays. Et donc, je vais vous donner un aperçu des prix. Je vous donne un aperçu des prix qui est dans un journal, un article que j'ai lu d'un Colombien qui a osé l'écrire. Les prix à la production du kilo d'hydrate de cocaïne, c'est 1300 dollars le kilo à la production. C'est ce qui va être payé au paysan qui fait de la cocaïne. Bon. Aux États-Unis, le kilo de cocaïne se vend 32 000 dollars. Le prix est multiplié par 25.
Ah oui, oui.
En Europe, le kilo de cocaïne, alors peut-être des gens me détromperont, moi je ne consomme pas, donc je ne peux pas dire. Hein, je n'ai pas de copain qui l'achète, mais le journaliste qui dit ça écrit ben, en Europe, le kilo d'hydrate de cocaïne se vend à 60 000 dollars le kilo. La multiplication est de 47 fois le prix d'achat. 47 fois. Et en Asie, là, c'est le sommet. On est à 100 000 dollars le kilo d'hydrate de cocaïne. Multiplication par 80. Bon. Alors, vous imaginez aisément que les gens qui tiennent les réseaux de vente, de distribution, de vente au détail, en gros, etc., de cocaïne, sont immensément riches. Et peuvent s'assurer d'abord d'acheter des armes, de faire peur à tout le monde, de tuer ceux qui se mettent sur leur chemin, de faire peur même au gouvernement. Hein, je ne dis pas que M. Duque, M. Santos sont des trafiquants de drogue, mais de toute façon, quand on est entouré de gens qui ont des bénéfices monstrueux, anormaux, et qui sont prêts à les défendre les armes à la main, un gouvernement, il ne pèse pas lourd dans ces cas-là. Hein. Ou tu obéis ou tu es mort. Hein. C'est ça la réalité. Donc, ce pays est pourri par la drogue, et j'insiste, il est pourri par la drogue parce qu'il y a trop de consommateurs de ces produits-là. C'est clair. Alors, je ne dis pas ne consommez plus de cocaïne. Si vous consommez autre chose, ça sera pareil. Hein. Ça sera le même système. C'est-à-dire, dès l'instant où on a un commerce illégal qui est tenu par une mafia, cette mafia peut faire la loi, dicter sa règle à tout gouvernement. Et un gouvernement qui déciderait d'en finir avec ça. Alors, on en finit. Alors, il y a des mesures, des fausses mesures en disant on va aider les paysans à produire autre chose. Bon. Alors, il y a des aides, ça a déjà été dans certains projets, c'est dans le programme du Pacto Histórico de Petro, mais vous allez dire à un paysan colombien, ah ben si tu fabriques ça, on te donne tant le kilo. Bon. Mais si c'est trois fois moins que le prix du kilo d'hydrate de cocaïne, il ne le fera pas. Et si en fait, à un moment donné, il dit, ben voilà, je vais transformer ce champ, puis je vais y faire, je ne sais pas quoi, pousser des ignames ou des pommes de terre, et que les gens qui lui achètent la drogue viennent lui dire, non, non, tu continues, nous on a besoin de ta cocaïne, hein, parce que nous on la vend et on fait des bénéfices dessus, tandis que sur ton igname et sur ta pomme de terre, on ne fera pas de bénéfices. Donc, ou tu arrêtes de planter ta pomme de terre, même si le gouvernement t'aide, ou tu meurs. C'est ça la crise dramatique, profonde, parce qu'elle remonte à des décennies maintenant de la Colombie, c'est le fait que cette culture pourrit tout, cette culture abîme tout, et cette culture rend quasiment, enfin très très difficile, l'expression d'un choix politique clair par les citoyens. Et il faut bien se rendre compte là-dessus. Quand on ajoute à ça, c'est le deuxième tarp, mais qui n'est pas mince non plus, que pour l'OTAN, la Colombie est le partenaire principal extérieur à l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que considérer que la Colombie fait partie de l'OTAN, tout en n'étant pas membre des institutions, on n'envoie pas des généraux à Bruxelles, etc., le partenaire principal privilégié extérieur à traité de l'Atlantique.
Bon, bon.
Et ça date depuis 1948, c'est pas d'hier. Bon. Que, donc ça a été rappelé au moment de la campagne, parce que vous imaginez que les États-Unis ont suivi la campagne du Pacto Histórico et de Petro de près, ça a été rappelé avec insistance par l'ambassadeur des États-Unis en disant attention, vous êtes des alliés, ça veut dire il faut le rester, sinon on va vous gronder. Il y a eu des réunions très officiellement annoncées de tout l'état-major militaire colombien avec leurs conseillers des États-Unis, les conseillers qui sont bien présents, puisqu'il y a 7 bases militaires des États-Unis sur le sol de la Colombie. Et donc, on sent bien que la pression est extraordinairement forte et que les États-Unis feront absolument tout pour que M. Petro ne gagne pas le deuxième tour. Voilà. C'est ça. Alors, la notion est dure. Je le fais parce qu'il y a une espèce d'illusion qu'on va voir d'un certain...
En profondeur. Hein,
voilà. Voilà. Il va y avoir des illusions qui vont circuler dans certains cercles de gauche, disant ça y est, la gauche se réveille en Colombie. La gauche risque sa vie. C'est ça qu'il faut savoir. On ne se rend pas compte. Ici, on peut voter à gauche et on n'en meurt pas. Hein. Mais là c'est très, très difficile. On a affaire à des gens qui sont enracinés, qui sont très riches, qui sont très violents, qui ne reculent devant aucune mort, aucun assassinat. Et donc, on a un pays qui est totalement à refaire. Donc c'est un énorme travail, et il faudrait une autre victoire que celle de Petro. Alors, même une partie de ses soutiens internationaux ou locaux disait « Oh, il va passer au premier tour ». On était loin du compte. Il manque 10%, et les 10% qui manquent vont peut-être manquer encore jusqu'au 19 juin. On verra. Voilà. Mais je voulais quand même insister là-dessus pour dire que ce pays est dans un très très mauvais pauvre État, que le citoyen colombien de base n'a pas beaucoup de moyens de défendre son pouvoir d'achat, sa vie, ses droits élémentaires, qu'il est sous menace permanente. Il est entre les mains d'une mafia de la drogue soutenue par les États-Unis d'Amérique. Ça fait beaucoup. C'est très lourd à porter pour un peuple de 50 millions d'habitants. Qui est à la tête par quelqu'un qui vit un pays qui a des potentiels considérables, potentiel agricole, potentiel minier, potentiel pétrolier, mais qui est évidemment, ce potentiel est entre les mains de puissances étrangères ou de bourgeois colombiens corrompus, armés et dangereux. Bon, voilà. Ceci étant dit, bon, on va passer à un autre sujet rapidement, puisqu'il y a eu des entretiens téléphoniques entre M. Poutine et M. Vučić, le président de la Serbie, au terme desquels, alors on est aujourd'hui le 31 mai, l'accord gazier qui existait déjà entre la Serbie et la Russie a été prolongé. Donc à partir de maintenant, il y a un nouvel accord que monsieur le président de la République de Serbie, M. Vučić, a déclaré à la télévision que, après les négociations qu'il y avait eues avec la présidence russe, le prix du gaz était maintenu et qu'il était le meilleur d'Europe, enfin le plus bas d'Europe.
Le plus bas.
Le plus bas. C'est-à-dire que la Serbie a dit à l'Union européenne, c'est bien joli vos sanctions, mais moi j'ai du gaz pas cher avec un pays avec lequel je travaille depuis longtemps. Nous avons des relations confiantes et je suis correctement traité, je ne suis pas racketté, je viens de signer, donc le président serbe l'a dit, un accord pour 3 ans avec la société russe Gazprom et je m'en trouve bien. Dernier point que j'aborde rapidement, c'est une réunion importante d'un organisme dont on ne parle pas puisque ça ne nous intéresse pas, c'est en Eurasie, donc l'Eurasie ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, il s'est réuni à Bishkek, donc qui est la capitale du Kyrgyzstan, il s'est réuni dans ce qu'on appelle l'Union économique eurasiatique. Alors c'est une organisation qui comprend donc 5 membres, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Bélarus et l'Arménie. Et donc cette organisation décide de l'union économique, donc d'avoir de libre-échange, de fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'on a là un des symboles du fait que la Russie, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, est morte, quasiment vive du fait qu'elle ne peut plus vendre à l'Ouest, puisque l'Ouest ne veut plus. Mais qu'en fait, la Russie n'a pas attendu ça pour s'organiser, pour avoir d'autres amis, d'autres clients, en particulier donc le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Bélarus et l'Arménie. Et à l'occasion de cette réunion de l'Union économique eurasiatique, les interventions des représentants russes, en particulier du ministère des Affaires étrangères, ont dit que l'association des pays d'Eurasie à cette activité donc de libre-échange, au renforcement des liens allaient s'intensifier et que donc on a en fait tout était prêt depuis la création de l'Organisation de coopération de Shanghai en 2000 pour qu'on ait une véritable intégration de la totalité de l'Eurasie. Alors ça aurait pu concerner les Européens mais ils n'en veulent pas. Et donc à partir de la frontière russe jusqu'au Kamchatka, l'union économique et des intérêts politiques stratégiques est en train de se faire. Donc amusez-vous, Européens, à vous battre contre les Russes. Les Russes ne vous attendront plus. C'est trop tard. Vous avez regardé du mauvais côté. Voilà. Merci de votre attention et place à la musique.